Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Orient. Il est 17h et voici votre point d'actualité avec vous, Souada Karmani. À la une en Iran, les manifestations se poursuivent. L'Union européenne pourrait envisager de nouvelles sanctions. Les États-Unis classent 3 branches des frères musulmans comme organisation terroriste. En Algérie et au Maroc, on célèbre depuis hier Yenayer, le nouvel an berbère. Interview dans cette édition. En Iran, les manifestations se poursuivent. Bilan, plus de 600 morts. Donald Trump menace d'imposer des droits de douane de 25% à tout pays commerçant avec l'Iran. La Chine, qui est le principal partenaire commercial de Téhéran, promet de défendre ses intérêts. Le président américain encourage les manifestants iraniens à poursuivre leur mouvement jusqu'à renverser les autorités, en promettant sur son réseau Truth Social que l'aide était en route. Il n'exclut pas l'option militaire. La France a convoqué aujourd'hui l'ambassadeur iranien. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé aujourd'hui que de nouvelles sanctions contre Téhéran allaient être rapidement proposées aux 27. L'administration américaine a classé les branches libanaises, jordaniennes et égyptiennes des frères musulmans comme organisations terroristes étrangères, les accusant de soutenir le Hamas. C'est l'une des classifications les plus sévères qui rend le soutien matériel au groupe passible de poursuites pénales. Les frères musulmans est l'un des mouvements les plus anciens et influents de l'islam politique dans le monde arabe. Le Groenland au cœur des discussions diplomatiques cette semaine face aux ambitions de Donald Trump de s'emparer de ce territoire. Mercredi, les représentants danois et groenlandais seront reçus à la Maison-Blanche par le vice-président James David Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio. Tandis que le ministre danois de la Défense rencontrera lundi le secrétaire général de l'OTAN. En Corée du Sud, le parquet a requis la peine de mort contre l'ex-président Yoon Suk-yeol, accusé d'avoir tenté d'instaurer la loi martiale en décembre 2024. En Syrie, les tensions entre Kurdes et pouvoir central sont toujours aussi vives. L'armée a demandé aux forces de se retirer d'une zone à l'est d'Alep, à Kamishli, dans le nord-est. Milliers de personnes ont manifesté contre le président Ahmed al-Shara après des affrontements récents qui ont exacerbé les tensions. C'est cet après-midi que s'est ouvert à Paris le procès en appel de Marine Le Pen et de 11 autres prévenus pendant 5 semaines dans l'affaire des assistants parlementaires européens. La dirigeante de l'extrême droite condamnée en première instance à 4 ans de prison, dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité. Marine Le Pen joue son avenir politique ainsi que sa possibilité de se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Toujours à Paris, un autre procès s'est ouvert aujourd'hui. Téhéran souhaite échanger Madieh Esfandiari contre les Français Cécile Kohler et Jacques Paris. Ils avaient été condamnés en Iran pour espionnage au profit d'Israël, puis libérés début novembre 2025, mais avec une interdiction de quitter le pays. Pour l'instant, ils restent bloqués à l'ambassade de France à Téhéran. Merci à vous d'avoir suivi ce point d'actualité. Dans quelques instants, le dossier du jour. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient. Place à présent au dossier du jour. Les Berbères célèbrent ces jours-ci le nouvel an, entrant dans l'an 2976 de leur calendrier. Quelques années après l'Algérie, Yenayer est désormais férié au Maroc. Mais les deux pays ne le célèbrent pas le même jour. L'Algérie l'a fêté hier. C'est aujourd'hui au tour du Maroc. Que représente la berbérité dans ces deux pays ? Entretien avec Pierre Vermeeren, professeur d'histoire contemporaine du Maghreb et du Moyen-Orient à la Sorbonne.
L'ère de civilisation des Berbères couvrait autrefois tout le quart nord-ouest de l'Afrique du Nord, enfin du continent africain en réalité, de l'Égypte jusqu'au Maroc et même aux Canaries. Aujourd'hui, la berbérité, c'est un phénomène culturel essentiellement lié à la langue et à un certain nombre de traditions culturelles. qui existent bien sûr principalement au Maroc et en Algérie, mais aussi dans d'autres États, que ce soit la Libye ou les États du Sahel. Et donc ces États, aujourd'hui, après de longs processus, ont fini par reconnaître la culture de ces populations, leur langue. Le tamazight est devenu la langue à la fois officielle, une des langues officielles et nationales, aussi bien au Maroc qu'en Algérie. Bien sûr, la mise en pratique, c'est une autre affaire. Et on a associé à cela un certain nombre de manifestations culturelles. Et les États, évidemment, s'y intéressent de très près. Mais il faut mesurer la distance parcourue par rapport au monopole de la culture arabe tel qu'il avait été créé aux indépendances. Donc, c'est un début de reconnaissance de la diversité culturelle des populations d'Afrique du Nord auxquelles on a assisté et qui donne lieu à diverses manifestations culturelles, dont celle dont vous parlez, c'est-à-dire début janvier, la célébration du Nouvel An berbère, qui est une fête qui a été instaurée dans les années 60 et qui aujourd'hui fait l'unanimité parmi les Amazirs.
Et qui n'est pas célébrée le même jour en Algérie et au Maroc. C'est aussi un élément à souligner.
Oui, c'est une grande tradition, comme les fêtes islamiques sont toujours célébrées en décalage entre le Maroc et l'Algérie.
Ce qui est important aussi, c'est le sentiment d'appartenance. Est-ce que l'on assiste aujourd'hui à un sentiment d'appartenance grandissant à la fois en Algérie et au Maroc concernant les Berbères?
Alors je crois qu'au Maroc, la berbérité a été intégrée de manière la plus officielle qui soit, c'est-à-dire par le palais et par l'ensemble des médias et des acteurs, comme une des composantes de la marocanité. Au même titre que l'arabité ou d'autres éléments culturels. Donc ça fait partie du patrimoine. Alors après, évidemment, il y a une minorité qui parle berbère, une minorité très importante, entre 30 et 40% de la population. C'est plus à ce niveau-là et au niveau de leurs droits culturels et administratifs, juridiques, qu'il y a peut-être un problème. Mais en tout cas, la berbérité ne fait plus débat. En Algérie, elle a été intégrée aussi. Bien sûr, comme je le disais à propos des langues et de la reconnaissance, mais elle est souvent perçue comme un élément qui peut mettre en danger la nation. La nation algérienne a été fondée comme une nation arabo-islamique, à l'indépendance tout au moins, et la prise de distance par rapport à cela, elle a été obtenue notamment à l'initiative des Kabyles, qui ont une militance et des activités très très visibles, hein, et très récurrentes à partir du printemps avril de 1980. Donc ils sont confrontés au même phénomène, mais ils ont plus de distance, même si c'est assez artificiel, parce qu'en réalité, les Kabyles et les Berbères en général sont partout présents dans l'État algérien, y compris dans l'État, évidemment, FLN. Donc, voilà, il y a plutôt une instrumentalisation problématique autour de ce phénomène. Mais regardez ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, en tout cas ce mois-ci, on fête Yanaïr dans un certain nombre de municipalités, de collectivités locales, notamment en Ile-de-France. Et les autorités algériennes se sont emparées du phénomène pour le soustraire ou essayer de le faire, en tout cas, aux associations amazighes, ça veut dire qu'elles préemptent aujourd'hui ce fait culturel, ce qui évidemment, dans un état de culture très centralisé, très jacobine, n'est pas évident.
C'était Pierre Vermeeren, professeur d'histoire contemporaine du Maghreb et du Moyen-Orient à la Sorbonne, au micro de François-Xavier de Calonne. Il sera l'invité de Grand Angle après le flash de 18h. C'est la fin de votre dossier du jour. Merci beaucoup de votre écoute. Place à présent au point football avec cette Coupe d'Afrique des Nations avec Mounir Kamouri. Bonsoir Mounir.
Bonsoir Swada.
Mounir, pourquoi l'affaire Algérie-Nigeria a-t-elle pris une dimension institutionnelle après le quart de finale?
On en parlait hier, la CAF avait ouvert une enquête, mais maintenant c'est l'Algérie qui est montée au créneau. La Fédération algérienne de football a décidé de formaliser sa contestation en déposant une plainte officielle auprès de la CAF et de la FIFA. La FAF dénonce des décisions arbitrales jugées contestables, notamment une main non sifflée de Junior Ajayi, mais aussi plus largement la gestion globale du match par l'arbitre sénégalais Issassi. Dans son communiqué, l'instance algérienne estime que ces décisions portent atteinte à la crédibilité de l'arbitrage africain et à l'image du football continental. On est donc désormais bien au-delà du terrain. C'est un dossier suivi de près au plus haut niveau avec de possibles conséquences disciplinaires à venir.
Comment une promesse de victoire à la CAN a-t-elle tourné en affaire d'escroquerie au Mali ?
Parce qu'en jouant sur la ferveur populaire autour de la CAN, un homme se présentant comme marabout sur les réseaux sociaux avait promis la victoire finale des Aigles à la Coupe d'Afrique des Nations. En échange de dons, beaucoup de dons, il a donc exploité l'espoir et la croyance des milliers de supporters maliens. Une histoire étonnante, révélatrice des dérives possibles quand le football devient plus qu'un sport et qu'on vous raconte dans la chronique du jour.
Et enfin, pourquoi l'organisation de la CAN 2025 au Maroc est-elle déjà considérée comme un succès bien au-delà des résultats sportifs?
Parce que le Maroc a mis en place un ensemble d'éléments qui dépassent largement la simple compétition sportive. D'abord, les infrastructures, des stades rénovés ou construits aux normes internationales comme le Prince Moulay Abdallah Rabat ou le Grand Stade de Tanger qui offre aux spectateurs un confort et une expérience de haut niveau. Ensuite, la logistique autour du tournoi, l'hébergement, le transport, la sécurité a été saluée avec des installations modernes et une organisation professionnelle digne des plus grands événements mondiaux. Et puis, il y a l'ambiance dans les stades qui se remplit match après match et le fait que cette CAN a battu déjà un record d'affluence sur les 35 éditions de la compétition, signe donc d'un engouement populaire exceptionnel. On vous donnera là aussi plus de détails dans l'émission du soir.
Merci beaucoup Mounir pour toutes ces précisions. On vous retrouve ce soir à 18h20 dans votre émission Sport sans frontières spéciale CAN 2025. Et merci beaucoup à Bizri Mohamed pour la réalisation. Excellente suite des programmes sur Radio Orient.